7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous parlons éducation comme chaque semaine. On s'intéresse aux universités britanniques après le Brexit. Depuis que le pays a quitté l'Union européenne, le nombre d'étudiants européens est en chute libre dans les universités britanniques. Alors, quelles sont les conséquences pour ces universités? Peut-on parler d'une fuite de talents? Quelles solutions aussi préconisent les autorités? Vers quel pays les étudiants européens vont se tourner pour poursuivre leurs études et perfectionner leur anglais? Nous allons en discuter avec Enora Bento-Pruvot. Bonjour.
Bonjour.
Vous appartenez à l'Association européenne des universités, basée à Bruxelles. Merci d'être de passage chez nous à Paris, dans le studio des 7 milliards de voisins. Et en deuxième partie d'émission, nous parlerons des étudiants africains en Europe avec l'entrepreneur Duplex Kamgang, qui a fondé Studly, une start-up qui simplifie les démarches administratives et financières des étudiants africains vers l'Europe. Et en fin d'émission, comme chaque semaine, la chronique du psychologue Ibrahima Girou à Dakar, parents, enfants, d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, suite de sa série sur les violences familiales, comment renouer le dialogue après la violence.
7 milliards de voisins, ça nous rapproche.
On est ensemble.
C'est votre vie au quotidien.
7 milliards de voisins
et la planète se barre.
Et tout de suite, reportage à Londres sur les universités britanniques post-Brexit. Écoutez le témoignage de Joanne, 21 ans, étudiante française en finance à l'université City dans le nord-est de Londres. Notre reporter Marie Boéda l'a rencontrée dans le hall animé de cet établissement à l'architecture moderne. Pas de chance, elle est arrivée en septembre dernier, pile pour les nouvelles règles post-Brexit. Ce qui change avant tout pour un étudiant européen, c'est le prix. Le prix à payer. Un étudiant européen qui souhaite s'installer dans le pays. Quand le Royaume-Uni faisait partie de l'Union européenne, une année universitaire coûtait environ, on va dire, 10 000 euros. Beaucoup moins, évidemment, si c'était un échange Erasmus. Aujourd'hui, quel que soit le niveau d'études et la faculté, c'est 35 000 euros minimum pour un Chinois comme pour un Européen. C'est ce qu'a payé Johan.
Alors, en fait, moi, j'ai postulé pour un visa étudiant. Et donc, pour un visa étudiant, il faut d'abord, dans un premier temps, être accepté dans une université. Les démarches, elles n'étaient pas trop compliquées. Il y avait des formulaires à remplir en ligne. Pour tous les étudiants qui étaient acceptés, qui venaient de l'étranger, ils ont mis en place comme un séminaire pour nous expliquer toutes les démarches à faire pour le visa, les sites à utiliser, tous les documents qui sont nécessaires pour postuler pour un visa. Il y avait des frais à payer. Il faut payer les frais de visa. Et il faut rajouter 600 euros approximativement pour les frais de santé. En tout, ça devait faire 1 800 euros. Avant, quand le Royaume-Uni faisait partie de l'Europe, les frais de santé, on n'avait pas besoin de les payer parce qu'il y avait la carte européenne de santé.
Le formulaire que vous avez dû remplir, plus le visa, plus la santé, les premières démarches, l'étape, c'est 1 800 euros. Et ensuite ?
Ensuite, quelque chose qu'il fallait prouver, c'était pour le visa, il fallait prouver que par mois, en dehors du loyer qui était payé, en dehors de l'université, il fallait prouver qu'on avait 1 200 pounds à peu près à dépenser pour la vie sur place en fait. Moi, je l'ai prouvé avec le compte bancaire de mes parents, la banque attestant que mes parents pouvaient subvenir à mes besoins. En réalité, je dépense beaucoup moins par mois, mais c'est une des choses qu'ils demandent et c'est une des choses qui peut être difficile à avoir. Le master m'a coûté 30 000 pounds l'année. Ce qui revient encore plus cher en euros, sans inclure en fait les frais de logement, la vie sur place. Donc au total, je dirais que c'est une année qui revient minimum à 50 000 euros.
Et vous avez dû prendre un prêt pour ça ?
J'ai pris un prêt. Il y a une partie qui a été financée par mes parents et une partie qui a été financée par le prêt.
Est-ce que ça vous a découragé ?
Les nouvelles règles, non. Les frais, un petit peu. Quelque chose qui a été très difficile pour moi, c'est de trouver un logement. Les prix sont très élevés. Je vis avec 3 colocatrices dans une maison. On a chacune notre chambre, mais je ne vis pas dans le centre de Londres. Donc moi, ça me prend 40 minutes pour venir à mon université. Mon loyer, je le paye 500 euros. Mais dès qu'on se rapproche du centre, il n'y aura rien qui sera en dessous de 1100, 1200 par mois, quoi. Là, je fais la conversion en euros.
Un coût de la vie élevé et des bourses pratiquement inexistantes aujourd'hui pour un étudiant européen. Sauf avec le sponsorship, explique Joanne. Une aide financière accordée à un étudiant après une sélection exigeante. C'est très difficile d'y avoir accès. La grande majorité des Européens de sa classe sont arrivés en Angleterre avant l'application des nouvelles règles. Ils gardent les facilités accordées aux Européens avant le Brexit. Une observation que fait aussi Itelotem, maître de conférence en civilisation française à l'université de Westminster. Drapeau couleur de l'arc-en-ciel à l'entrée, le bâtiment massif en pierre grise trône sur Regent Street, en plein cœur de la capitale.
Cette rentrée était quand même très, très différente aussi par rapport, pas seulement par rapport au Brexit, mais surtout par rapport à la situation sanitaire. Après une année entière en ligne, on est rentré à une année en présentiel, mais on avait beaucoup moins d'étudiants européens. Il faut aussi préciser que je travaille dans un département de langue, ce qui souvent a beaucoup plus d'étudiants européens que beaucoup d'autres programmes. Et du coup, on a toujours eu, dans le département d'études françaises, d'études francophones, mais aussi études hispanophones, chinoises, etc., on a toujours eu autour de 50-60% d'étudiants européens. Et cette année, on voyait que cette promo était déjà beaucoup plus petite. Et le grand changement au niveau de chiffres était surtout par rapport au manque d'étudiants européens. Je dirais 50%. Alors c'est difficile aussi de faire le point complet. Des nouveaux venus européens, la chute était même plus grande que ça.
Là, cette année, dans vos classes ou votre classe, vous savez s'il y en a des nouveaux venus européens ?
Sur 60 étudiants, je ne connais que 2 nouveaux venus.
Européens,
normalement, ça aurait été beaucoup plus. Normalement, ça aurait été la moitié. Le gros changement, c'était que les étudiants européens sont devenus des étudiants étrangers, ce qui veut dire qu'ils doivent avoir un visa étudiant. Mais ils n'ont plus accès aux prêts étudiants qui sont très importants pour financer les études. Et leur travail est limité à 90 jours par an. Ce qui est tout ça a quand même un effet cumulatif de ne pas être dans les mêmes conditions, relations privilégiées dans lesquelles ils étaient avant.
Erasmus, qui disparaît cette année dans le pays, sera difficilement remplaçable. Il laisse la place au programme de financement Turing, destiné uniquement aux étudiants britanniques.
Alors ce n'est pas un programme d'échange, c'est vraiment un programme qui finance des projets pour des étudiants qui partent à d'autres pays. C'est une bourse, c'est un financement lié à ce qu'on appelle la mobilité extérieure. Ce n'est pas que pour financer les études, mais aussi pour financer n'importe quelle expérience à l'étranger. Ça veut dire que ça peut aussi financer des stages, ça peut financer des voyages d'études. C'est un programme qui devait remplacer les possibilités Erasmus et en même temps donner aux étudiants britanniques la possibilité de pas que voyager, mais vraiment partir à des destinations globales, pas que l'Union européenne.
Selon le service d'admission aux universités britanniques, entre 2020 et 2021, on note déjà une baisse d'inscription des étudiants européens de 43%. Alors que pour les autres nationalités, les demandes ont grimpé à la même période de 14%. Pour l'ancien étudiant de Cambridge, Edouard Gillin, aujourd'hui historien et professeur à l'Université College de Londres, certains établissements d'enseignement supérieur sont en péril, surtout ceux qui ne bénéficient pas d'une réputation à l'international.
Nous avons 700 universités dans ce pays. La plupart ont été ouvertes ces 20 dernières années. Il devient évident qu'elles ne réussiront pas toutes à remplir tous les départements avec des étudiants anglais pour les 20 ou 30 prochaines années. Ces universités ont besoin de trouver des étudiants pour l'argent. Les plus prestigieuses attirent toujours les étudiants étrangers, comme UCL, Oxford, Cambridge. Leurs noms sont connus. Elles trouveront toujours des personnes pour les financer. Nous perdons beaucoup de talents en nous privant des Européens. Mais si on se place d'un point de vue économique, si vous faites payer à un étudiant européen 10 000 alors qu'un étudiant chinois paye 40 000 l'année, un étudiant chinois équivaut à 4 étudiants européens.
Un autre point d'interrogation, l'avenir de la recherche. L'arrêt des financements provenant du continent affecte la coopération entre les universités britanniques et européennes. Pour Itelotem et Edouard Gillin, il est encore tôt pour mesurer les effets du Brexit, mais ils ne retiennent aucune conséquence positive aujourd'hui. Un seul pays en profite, la République d'Irlande, toujours dans l'Union européenne, anglophone et proche géographiquement du continent. Le nombre d'inscrits européens dans les universités du pays a augmenté de 20% entre 2020 et 2022.
Reportage à Londres signé Marie Boéda et Nora Bento-Pruvo. Les universités britanniques, on l'a entendu, ne font plus partie des universités de l'Union européenne. Ça veut dire que les étudiants européens sont des étrangers comme les autres. Est-ce que ça veut dire qu'elles ont aussi quitté votre organisation, l'Association européenne des universités qui est basée à Bruxelles ?
Alors heureusement, non, ce n'est pas le cas. Nous représentons les universités d'Europe géographique, donc sur 46 pays. Et donc dans les 800 établissements membres aujourd'hui de l'EUA, on compte toujours les universités britanniques. J'ai envie de dire, on en compte encore plus qu'avant le Brexit, car elles ont conscience de la nécessité et de la valeur ajoutée des structures de collaboration européenne dans le milieu académique.
Néanmoins, vous avez le sentiment, vous en tant que spécialiste de ces questions, que le Brexit laisse des traces psychologiques dans les campus et dans les relations entre les campus ?
Complètement, et pas que dans les campus, mais dans toute la chaîne de gouvernance de l'enseignement supérieur et de la recherche. On vient de parler de recherche aussi. On est en train d'affaiblir et de distendre des liens sur lesquels on a travaillé depuis plus d'un demi-siècle, et ça, c'est vraiment dommageable à tout niveau.
Alors, pour obtenir un diplôme d'une université britannique, c'est-à-dire une licence, un master, les Européens payaient avant le même tarif que les Anglais. Ce n'est plus le cas, on l'a compris dans le reportage. Ils deviennent donc des étudiants internationaux comme les autres, et ils payent le prix qui est exigé par chaque université. Le prix a bondi, a été multiplié par 3, mais c'est aussi la fin du programme Erasmus, le célèbre programme Erasmus, qui lui permettait à des étudiants non pas de se diplômer réellement d'une université britannique, mais de passer un semestre ou plus dans un campus britannique en payant uniquement les frais d'inscription de leur université chez eux. Alors évidemment, pour un étudiant allemand ou un étudiant français qui paye des tarifs quasi nul, il se retrouvait dans une université britannique avec le même prix. Là, c'était le jackpot. Et ça aussi, ça a des conséquences énormes, la fin de ce programme Erasmus.
Tout à fait. Alors, sur la mobilité diplômante, effectivement, les étudiants européens d'Union européenne n'étaient pas discriminés par rapport aux étudiants nationaux et donc avaient accès à ce prix de 9 250 livres sterling, mais surtout avaient accès aux prêts qui venaient financer ça. Donc on était en réalité sur un système encore de subsides. Mais ça s'est terminé, donc maintenant il faut payer et il n'y a pas ces accès aux prêts. Et sur la mobilité donc non diplômante dans le cadre d'échanges, ici c'est la fin d'Erasmus. On a bien vu dans le reportage, Turing, c'est... Ce n'est pas un programme qui est bidirectionnel.
On
parle de sortir, effectivement, d'aller à l'international. Et donc, ce qui s'est passé au niveau des universités européennes, c'est qu'on a retravaillé les accords Erasmus existants pour continuer à avoir des accords de coopération. Sauf qu'évidemment, la question du prix a été abordée de manière complètement différente, puisqu'il n'est plus possible pour un étudiant d'une université allemande de venir étudier 6 mois au prix allemand.
En clair, le Royaume-Uni a refusé de rester dans le programme Erasmus en tant que pays tiers, comme le fait la Norvège, par exemple. Pourquoi ?
Il y a eu... Ça a été pris dans un contexte plus global et c'est ce qu'on voit actuellement avec la recherche. La question de la collaboration de la recherche est un peu prise en otage par d'autres questions de nature très politique. Participer en tant que pays tiers, ça implique aussi un financement, donc une participation financière. Et le Royaume-Uni a toujours été plus intéressé par Horizon 2020 puis Horizon Europe, donc la collaboration scientifique qui apporte une valeur ajoutée aussi en termes financiers que malheureusement la collaboration académique qui est peut-être plus...
Plus démocratique, plus populaire, mais ça coûtait trop cher. En tout cas, c'était leur point de vue, ça coûtait trop cher aux Britanniques.
On a bien vu dans le reportage l'idée qu'un étudiant chinois rapporte 4 fois plus qu'un étudiant espagnol. Alors à ce moment-là, en termes d'incitation financière, voilà, c'est toujours la question du modèle de financement qui est derrière, qui a un impact sur les comportements des universités.
Il y a évidemment du coup des changements dans le profil des étudiants étrangers, des étudiants européens qui vont arriver là dans les années à venir et qui ont déjà commencé à arriver en payant plein pot, si je puis dire.
Tout à fait. On était avant le Brexit et avant la pandémie sur à peu près un tiers d'étudiants étrangers au Royaume-Uni qui venaient de l'Union européenne. Donc ça, c'est un chiffre qui est en train évidemment de diminuer avec le problème de la pandémie qui fait qu'on ne peut pas vraiment comparer 2020 à 2021. Donc ça va diminuer. C'est remplacé en partie par une augmentation d'autres régions du monde. Mais c'est aussi un changement dans les caractéristiques socio-économiques des étudiants européens qui peuvent se permettre de venir aujourd'hui effectuer une mobilité diplômante au Royaume-Uni qui a des coûts qui sont supérieurs à tout ce qu'on peut trouver sur le continent européen.
Sélection par l'argent, avant tout sélection par l'argent, pour des étudiants venus des meilleures universités européennes, très talentueux. Quand on voit quand même ce qui est devenu le business des universités britanniques, 700 universités au Royaume-Uni, la plupart ouvertes ces 20 dernières années, on a l'impression d'un gigantesque marché des études supérieures, comme une bulle, peut-être pas immobilière, mais en tout cas une bulle des études. Ça n'a plus grand-chose à voir avec l'accès au savoir pour faire progresser l'humanité.
C'est probablement considéré comme complémentaire, je pense, au Royaume-Uni, c'est-à-dire qu'on a un accès à la population anglaise ou britannique qui est préservée, qui a ce prix qui semble très élevé, mais qui encore une fois fonctionne par un accès à des prêts qui sont garantis par l'État et dont on sait qu'une grosse partie fera défaut. Donc on est quand même toujours sur un système de financement public.
Vous voulez dire les Anglais parviennent pas tous à rembourser leurs prêts.
Voilà, exactement, à terme. Donc en fait on est plus sur une logique comptable qui fait qu'on montre pas qu'on subventionne l'enseignement supérieur, mais ça reste le cas. Donc ça, de ce côté-là, c'est fort réglementé et on laisse par ailleurs la liberté aux universités de diversifier leurs sources de financement.
Pour se renflouer.
Effectivement financer par l'arrivée d'étudiants internationaux leurs activités de recherche, par exemple, ou des programmes qui sont considérés comme à perte. Donc on a une logique financière assez,
pragmatique.
Pragmatique, voilà, j'allais dire, qui n'est pas celle à laquelle on est habitué, on va dire, sur le continent européen.
Alors on va en parler de la recherche, mais déjà, à qui peut profiter le Brexit ? Si on regarde les voisins géographiques, alors, immédiats ou plus lointains.
En termes de mobilité intra-européenne, on a certains pays qui sont très bien positionnés par un coût qui reste raisonnable, par une offre académique en langue anglaise importante, et aussi par une réputation pour offrir une bonne qualité de vie. De ce côté-là, on a principalement l'Irlande qui a été mentionnée, mais aussi
la République d'Irlande.
La République d'Irlande, qui fait toujours partie de l'Union européenne, donc pour lesquels les étudiants européens sont considérés comme des étudiants irlandais. On est sur des coûts en licence qui sont autour de 3 000 euros l'année, donc qui restent beaucoup plus abordables, même si c'est beaucoup plus cher qu'en France, ça reste beaucoup plus abordable en termes d'expérience anglophone.
Aux Pays-Bas, avec des universités célèbres, hein, il faut parler de Trinity College à Dublin aussi, mais University College à Dublin, enfin, il y a des universités qui ne sont pas trop mal classées à
Tout
l'échelle à internationale.
Oui, qui ont un capital de prestige, surtout à Dublin, mais pas uniquement. On a 7 à 8 universités de recherche qui offrent de très bonnes conditions. On reviendra probablement sur la question de la capacité du logement étudiant. Il y a aussi les Pays-Bas qui sont très facilement accessibles, très bonne qualité de vie, des coûts en licence autour de 3 000 euros l'année. Beaucoup de formations aussi disponibles en anglais, avec des caractéristiques similaires à l'Irlande, dans le sens où ce n'est pas un système qui est très large. On parle de 13 à 14 universités de recherche et qui donc souffre aussi en termes de capacité et d'accueil de ses étudiants. Et puis on a aussi les Nordiques, la Scandinavie, qui offrent de bonnes conditions financières puisqu'il n'y a pas ou peu de frais d'inscription, frais de scolarité. Par contre, là, on a des frais, le coût de la vie qui est aussi assez important, donc à prendre en compte, évidemment.
Est-ce que le Brexit et du coup le manque d'attractivité des universités britanniques pour les Européens risque de créer un effet de congestion du fait de ce report sur d'autres pays ?
Il y a clairement une très forte pression qui s'exerce sur les universités, notamment irlandaises et néerlandaises, pas uniquement, parce qu'on est à la conjonction de plusieurs facteurs. On a l'accroissement du coût de la vie, on a des crises immobilières, des crises de logement assez importantes, notamment dans une période post-pandémie, donc une capacité d'accueil qui est assez limitée. Et on a régulièrement dans la presse des échos de cette crise-là avec des étudiants internationaux accueillis en Irlande, mais qui se retrouvent à dormir sur le canapé de quelqu'un ou voire dans une voiture. Et aux Pays-Bas, on a parfois des idées plus innovantes, comme par exemple la transformation de containers en logements étudiants. Mais donc ce sont deux pays qui font face à des crises importantes et les universités elles-mêmes appellent au secours parce qu'on a un problème de sous-financement et de capacité qui devient véritablement problématique.
Vous parliez de la recherche tout à l'heure. Est-ce que la fuite des talents européens des campus cursus britannique risque d'affaiblir la capacité en recherche. Et si la recherche est affaiblie, ça veut dire que dans ces cas-là, il y a des conséquences directes sur les classements des universités, puisqu'un étudiant, il choisit son université aussi en fonction des classements. Le classement, il est décidé en fonction de ce que produit l'université au niveau de la recherche.
Oui, alors là, on est plus sur les questions de master et notamment de doctorat, évidemment, où les proportions d'étudiants étrangers sont extrêmement élevées. Même en France, au niveau du doctorat, on est à 40% d'étudiants étrangers. Au Royaume-Uni, c'est aussi un niveau de formation qui est extrêmement diversifié et international. Je pense que la vision qui prévaut actuellement, c'est qu'on est dans un creux et que ça va, que les universités vont récupérer leurs billes dans cette histoire et que leur capital prestige est suffisamment important pour pouvoir continuer à attirer des talents au niveau global, mondial, le temps qu'elles travaillent à réattirer les talents européens. Et ça se fait notamment par de l'investissement dans l'accompagnement. On a entendu aussi dans le reportage, c'est toutes ces facilités autour des procédures, des visas, etc. Et ça se fait aussi dans le développement de politiques de bourse qui sont en train de se développer. Donc tout ça, ce sont des choses que les universités mettent en place pour rectifier la situation. On a vu en Suède aussi, même si on n'est pas sur cette telle ampleur, que ça a pris quelques années du moment où ils ont introduit des frais d'inscription pour les étudiants étrangers, non européens. Pour récupérer un petit peu cette population-là, ça a été fait en quelques années.
Il va falloir quand même que les Anglais apprennent à draguer les étudiants européens, ce qu'ils ne savaient pas faire jusqu'à maintenant, ils n'en avaient pas besoin.
Ce qu'ils n'avaient pas besoin de faire, effectivement. Donc, ils vont devoir mettre en place des stratégies de recrutement dont ils sont extrêmement coutumiers pour toute autre partie du globe terrestre aujourd'hui, mais l'adapter aux attentes européennes qui sont différentes. On a une sensibilité au prix en Europe qui est tout à fait différente de celle d'un étudiant sud-coréen ou d'un étudiant japonais.
Alors parlons de l'Europe. Un des grands chantiers de l'Union européenne dans les années à venir pour l'enseignement supérieur, c'est de bâtir des universités européennes, sortes d'universités en réseau qui vont travailler ensemble au-delà des langues, au-delà des cultures, au-delà des frontières et délivrer des diplômes de plusieurs universités à la fois. Comment vont se bâtir ces universités européennes sans le Royaume-Uni ?
Alors, ça, c'est un grand chantier. C'est une idée en partie française, d'ailleurs, sur lequel qui vraiment occupe énormément de monde à Bruxelles et dans la sphère de l'enseignement supérieur en Europe. Il existe aujourd'hui des alliances qui incluent un membre du Royaume-Uni, parce que les premiers schémas pilotes ont été mis en place avant la sortie effective du Royaume-Uni du programme. Donc, il existe quelques alliances, je pense qu'il y en a trois, avec des universités britanniques qui ne reçoivent pas de financement pour cette participation, mais qui néanmoins ont tenu à montrer leur engagement et donc ils engagent eux-mêmes les fonds nécessaires pour leur participation. On est sur une expérimentation réellement. On a déjà maintenant deux vagues de ces alliances-là. On est en train de discuter de comment mettre au point ou non un diplôme réellement européen. Est-ce qu'il y a besoin d'un statut juridique pour ces universités ? C'est une discussion complexe parce qu'on est dans un champ qui est principalement national. Les compétences ne sont pas au niveau européen de ce côté-là. Donc, il s'agit un petit peu de voir comment on peut vivre ensemble presque au quotidien, donc,
et au-delà de la mobilité. Et réparer la relation après le divorce aussi.
Oui et non, puisque finalement, le Royaume-Uni n'aura qu'une une participation extrêmement périphérique dans ces alliances. Donc, c'est malheureusement, on joue le jeu sans les partenaires anglais et britanniques. On espère qu'on pourra continuer à travailler ensemble au niveau au moins de la collaboration scientifique. Mais effectivement, aujourd'hui, l'édification de ces réseaux d'universités européennes ne se font pas avec la participation active des voisines britanniques.
Il faut le redire, ce pays était quand même une locomotive de la recherche européenne.
Tout à fait. Alors, les universités britanniques sont traditionnellement des bénéficiaires très importants des programmes de recherche européens et ont une grande capacité à coordonner ces projets-là. Donc là, on a une véritable perte au niveau de la collaboration scientifique en Europe. C'est encore en discussion, ce n'est pas encore perdu. Malheureusement, on entend de plus en plus parler d'un plan B au niveau britannique qui ferait que les 15 milliards d'euros mis de côté pour participer à Horizon Europe, finalement, iraient dans l'édification d'un programme séparé, un programme national à vocation internationale, mais nous ne connaissons pas encore les paramètres, les modalités de ce programme-là.
Le plan B, comme vous dites, dans un monde globalisé de la recherche, forcément le Royaume-Uni va devoir se tourner vers d'autres partenaires parce qu'ils ne peuvent pas rester tout seuls dans leur tour d'ivoire et leur recherche. Ils vont se tourner vers qui ? Les Américains ?
Et c'est déjà le cas et ça va certainement s'intensifier. On parle beaucoup d'Amérique du Nord, on parle beaucoup d'Asie du Sud-Est. Donc ce sont des partenariats qui sont appelés à prendre encore plus d'importance. On le voit aussi, ils viennent d'ouvrir un nouveau système, un régime de visa qui permet aux étudiants provenant d'universités qui figurent dans au moins deux classements internationaux d'avoir une espèce de facilité pour venir s'installer au Royaume-Uni et travailler, non pas pour étudier mais pour travailler. Donc on a une vision un peu hiérarchique de l'internationalisation des relations internationales en termes scientifiques et académiques qu'on ne peut que regretter.
Merci beaucoup Enora Bento-Pruvot, bien sûr c'est une histoire à suivre. Merci d'être passée par le studio de 7 milliards de voisins. Bientôt vous retournez à Bruxelles, vous appartenez à l'Association européenne des universités. Merci à vous.
Merci à vous.
Dans quelques instants on va parler des étudiants étrangers en France avec Duplex Camgang qui a fondé Studly, une start-up qui simplifie les démarches administratives des étudiants internationaux. Ça sera juste après Maëlia et Burna Boys chez 7 milliards de voisins. Sometimes you love too hard, sometimes you go too far. No, I won't want you if you need me. Real things do not come easy, no. Never been your average girl, so take time with me, take time. Baby, talk to me with some action. We can find a place for your passion, no. Cool down some more, cool now, please me. Cool now, sinner, cool down love. Cool now, sinner, cool now, please me. Cool now, sinner, cool down love. Sometimes I want you close, sometimes I want my space. Just know I'm gonna call if I need you. It's not my job to please you, mom. Never been your average girl, so take time with me, take time. Baby, talk to me with some action. Think I got a place for your passion, oh. Cool down some more, cool now, please me. Cool now, sinner, cool down, love. Cool now, sinner, cool now, please me. Cool now, sinner. Stay here, boy, you're making it hard for me to be your love.
Like say you forgotten who you're dealing with. Man, I regret when I'm at work non-stop. You know, cook more than I when I come back. Something wrong with ya, come out from that. If no, I can leave ya, I may not come back. Nah. You're falling, but you don't wanna fall too hard. You're falling, but you don't wanna fall apart. Cause it might break if I give you my heart. So cool down some more, some more. Cool down some more, cool now, please me. Cool now, sinner, cool down, love. Cool now, some more, cool now, please me. Cool now, some more, some more. Boy, you make it too hard for me to stay here. Boy, you're making it hard for me to be your love.
Nous attendons toujours l'arrivée de Duplex Camgang chez 7 milliards de voisins qui a fondé Studly, une start-up qui simplifie les démarches administratives des étudiants internationaux. Je vous avais aussi promis en début d'émission, bien évidemment, comme chaque semaine, la chronique du psychologue Ibrahima Giroud. On l'écoute tout de suite et ensuite on donne la parole à Duplex Camgang.
On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Parents, enfants d'ici et d'ailleurs.
Parents, enfants d'ici et d'ailleurs, ce sont des conseils du psychologue Ibrahima Giroud à Dakar pour tous les parents. Bonjour Ibrahima.
Bonjour Emmanuel.
Dans ce dernier épisode de notre série de chroniques sur les violences dans les familles, eh bien nous discutons avec vous des meilleures approches pour reconstruire une relation familiale quand elle vient à se briser, notamment souvent à cause de la violence. Alors déjà, est-ce qu'on peut reconstruire quelque chose quand il y a eu de la violence dans une famille entre les parents et les enfants ?
C'est tout à fait possible, Emmanuel. Certains pensent que si on y parvient, c'est qu'alors la relation ne s'est jamais vraiment brisée. Mais en fait, cette façon de penser ne mène nulle part. Qui sait avec certitude quand est-ce que l'on peut dire que c'est définitivement cassé ? L'histoire, elle est pleine de leçons brillantes d'ennemis mortels hier, devenus aujourd'hui les meilleurs amis.
Alors à ce propos, nous allons écouter le message posté par un voisin, Bobby, qui est père d'un enfant de 6 ans et qui nous raconte la problématique avec son enfant.
C'est Bobby du Cameroun. Je fais ce voice ce matin pour parler de mon fils, avec qui j'ai perdu une relation de complicité depuis un an déjà. Il m'arrivait de lui donner des cours et puis je tapais beaucoup sur lui, quelque chose qui n'était pas normal. Et si je tapais, c'est parce que moi, je ne sais pas retenir ma colère, en fait. Surtout quand je me dis que je veux le bien de l'enfant, je veux qu'il étudie bien, je veux qu'il soit fort à l'école. J'avais parfois l'impression qu'il ne voulait pas, au fait, bûcher. Du coup, je me mettais dans une rage folle et puis... je tapais sur lui. Ce qui fait que, après, quand je commençais à lui donner les cours, du moins quand on l'appelait pour lui dire « Bobby, viens bûcher avec papa », il tremblait, il avait peur, il se mettait à pleurer. C'est-à-dire, je lui demande d'étrire un ou deux, il n'étrit pas, il cale là sur la feuille et puis sa main tremble. Et jusqu'aujourd'hui, la relation est restée aussi tendue avec lui. Donc, je ne sais pas trop comment faire. Je demande un conseil, parce que franchement, quand je parle avec lui, quel qu'en soit ce que je vais lui dire, il a peur, il n'aime plus trop me voir. Merci et bonne journée.
Ibrahima Giroud, que faire pour renouer la relation avec son enfant qui a peur parce qu'on a été violent ?
Disons trois conseils très pratiques, Emmanuel. Tout d'abord, au niveau de l'approche. Il ne faut pas que vous partiez pessimiste ou défaitiste ou pressé d'obtenir un résultat. Cela veut dire qu'il ne faut pas forcer les choses ni tenter de faire comme s'il ne s'est rien passé. Cela pourrait être plus tard comme du poison pour votre enfant. Dites-vous, cher Bobby, que les réactions de peur, de panique de votre enfant et les résultats contraires à ce que vous souhaitez en définitive indiquent simplement que vous devez changer de méthode, c'est assez clair. Comme on dit en français, mettre de l'eau dans son vin.
Tenter de forcer la relation ne marche pas, hein, c'est-à-dire comme si rien ne s'était passé, ce que nous disait Bobby. Ça pourrait même être une violence supplémentaire de dire à son enfant « Viens, reste avec moi, passe du temps avec moi », alors que celui-ci a peur.
Tout à fait. Et ensuite, Bobby, vous pouvez poser des actes constructifs de la relation avec votre enfant sans attendre ni préjuger d'aucune réaction, ni positive ni négative de sa part. J'insiste là-dessus, Emmanuel, sans rien attendre de retour.
Ne rien attendre de son enfant. On est quand même plus encouragé et optimiste si l'autre réagit positivement à nos efforts, quand même, en tant que parent.
Certainement, Emmanuel. Mais en n'attendant rien de l'autre, on passe à une sorte d'élévation de soi et même de la relation. Nous sommes les principaux bénéficiaires du bien que nous faisons. Il faut d'ailleurs savoir, Emmanuel, que des actes intéressés peuvent même paraître agressifs et risquer de mener à l'aggravation du conflit. Et enfin, Bobby devrait éviter le plus possible d'essayer de se racheter par des cadeaux matériels. Si vous êtes nanti, vous risquez de ruiner psychologiquement votre enfant qui subit la violence. Et dans le cas contraire, vous risquez de vous ruiner tout seul, inutilement.
Préserver la dignité de tout le monde, donc en commençant par sa propre dignité de parent, vous a bien compris Ibrahima Giroud. Et la question de la semaine pour Bobby et tous ceux qui nous écoutent sur ces problématiques de violence familiale.
Emmanuel, comment éviter de s'excuser tout le temps ou d'être tyran si on ne prend pas le temps de comprendre d'où viennent nos violences?
Et pour comprendre d'où viennent nos violences, évidemment, vous pouvez écouter la toute première chronique de cette série de quatre chroniques sur les violences familiales, à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement. Les chroniques du psychologue Ibrahima Giroud, parents, enfants, d'ici et d'ailleurs. Et vous continuez aussi de poster vos questions, si vous le souhaitez, au 33 7 64 45 51 41. Alassane Bireba était à la technique. Cette chronique était enregistrée dans le studio de RFI à Dakar, en mandinquant et en full full day. Merci à vous, Ibrahima Giroud.
Au revoir.
Et notre entrepreneur d'origine camerounaise est arrivé dans le studio. Bonjour Duplex Camgang.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes diplômé en France d'une grande école de commerce. Vous avez 37 ans. Vous êtes le fondateur de Studly, une start-up qui accompagne les étudiants africains, et pas que d'ailleurs, dans leur installation en France et au-delà maintenant en Europe. Alors en première partie d'émission, nous avons parlé de la sortie de l'Union européenne du Royaume-Uni, surtout des universités britanniques et des conséquences pour les étudiants européens. Évidemment, pour les étudiants africains, ça ne change rien du tout parce que cela fait des années qu'ils payent très cher pour rentrer dans les universités britanniques en tant qu'étudiants internationaux. Ils ne payent pas le même tarif que les étudiants britanniques et que les étudiants européens. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, puisqu'on est vraiment dans ce marché mondial des étudiants qui vont, qui viennent, de cette mobilité internationale, des compétences, des talents. Qu'est-ce que ça vous inspire, tous ces changements ?
Merci Emmanuel. Avant de répondre à la question, je tenais d'abord à vous remercier parce qu'il y a 6 ans, en fait, j'étais sur ce plateau pour parler justement de la condition des étudiants étrangers et c'était le début de Studly. On n'avait pas encore à ce moment-là accompagné d'étudiants. Aujourd'hui, on est à 10 000 étudiants et j'en suis très fier et merci beaucoup pour l'invitation. Et pour revenir à la question, en fait, je dirais que c'est une opportunité pour les pays comme la France, les pays de l'Union européenne, parce que aujourd'hui, ça se revoit voit dans les classements, la France commence à prendre une part importante. Les universités françaises sont les plus prisées grâce aussi au Brexit, on peut dire, et elles se sont adaptées aussi avec les formations professionnalisantes plus des formations complètement en anglais. Pour les étudiants africains qui, effectivement, ça ne change pas, je pense que pour les Européens, il y a un grand changement et comme en Europe aussi, je le dirais que les universités françaises, surtout les écoles françaises, voire les écoles de d'autres pays, commencent aussi à s'arrimer à la politique de la Grande-Bretagne qui est de laisser le privé financer l'enseignement. Et de ce fait, les prix aussi en France ont augmenté, donc qui commencent à atteindre les niveaux de Royaume-Uni. Mmh. Donc c'est toujours bien pour l'éducation.
Alors est-ce que ça vous profite, ce business de l'éducation ? Revenons à votre start-up. Depuis l'époque où vous étiez étudiant vous-même en France, le digital a quand même beaucoup simplifié les procédures.
Bien évidemment, le digital a beaucoup simplifié et le Covid, j'ai souvent coutume de le dire, c'est le meilleur chief digital officer de toutes les boîtes parce que ça a permis à changer toutes les méthodes de consommation.
Même ça vous a profité, à vous ?
Effectivement, ça nous a profité. Déjà, premièrement, ça nous a montré que on devait modifier notre modèle parce qu'on était sur un modèle où on avait des présences physiques avec des bureaux et on a passé complètement à 100% digital. Et aujourd'hui, on a sorti, on en parlera certainement, un compte de paiement pour les étudiants avec une application mobile à laquelle ils ont accès. Et ça permet de faire tout et toucher, comme vous l'avez dit tout à l'heure, tous les étudiants, quel que soit leur pays d'origine.
Justement, on va parler des différents services que vous proposez. Vous êtes parti finalement de l'idée qu'il y a des difficultés spécifiques pour les étudiants africains qui veulent étudier en France et dans le reste de l'Europe.
Oui, c'était notre point de départ parce que ça venait de mon expérience personnelle et celle de mes cofondateurs. Et on s'est dit, plus jamais cela. Et on a apporté des solutions concrètes. Déjà, comme première solution concrète, tout simplement, on a permis aux étudiants sur la galère qu'ils avaient à justifier leurs ressources auprès des consulats, à le justifier plus simplement en faisant quoi ? En pouvant faire leur attestation de virement révocable directement en France auprès d'une banque partenaire.
Pourquoi c'est compliqué ça pour un étudiant africain qui postule à l'université, quelle qu'elle soit ? Tous les pays aujourd'hui demandent des conditions de ressources sur un compte en banque. Même au Canada, on demande exactement la même chose. Pourquoi c'est compliqué pour un étudiant africain ?
C'est compliqué pour deux choses. La première, c'est que l'étudiant africain, les banques locales de ces pays-là, en fait, ont des frais de transfert, du moins les frais très importants. Par exemple, au Cameroun, on a encore des frais de 1 000 euros juste pour faire cette attestation. Et pourtant, en France, c'est un service banal, entre guillemets, aucun service bancaire n'est né à 1 000 euros. La deuxième chose, c'est parce que les étudiants africains ont souvent, bien évidemment, via l'économie aussi de ces pays, de tout bloquer cette somme en une fois. D'un coup, c'est quand même assez important pour les familles et on a souvent du mal. Même mes parents, à l'époque, ont eu du mal pour cela.
Alors, quels sont les différents services que vous proposez ? En amont, déjà, du départ pour la préparation de son dossier ?
Oui, en amont de la préparation de son dossier consulaire, je dirais, parce que nous, on intervient à l'étape préconsulaire. La première étape où l'étudiant, quand il a une admission, ce qui déclenche la remise de son attestation d'admission, c'est le paiement de ses frais de son acompte de scolarité auprès de son école. C'est une vraie galère, il y a un point de friction. Et pour cela, Studeli a positionné depuis quelques semaines un produit qui permet de le faire à travers un compte de paiement qui l'ouvre directement en France, et il peut approvisionner ce compte et payer son école en toute sérénité et en toute simplicité.
Mais c'est quand même lui qui paye l'école, c'est pas vous qui avancez l'argent.
C'est pas nous qui avançons l'argent, c'est toujours
donc
lui qui paye.
Donc vous l'aidez à provisionner d'une certaine manière, à épargner.
Exactement, on le facilite le transfert. En gros, l'étudiant peut déposer les fonds à Dakar, au Cameroun, au Bénin, et tout simplement, en quelques minutes, en quelques clics, il a déjà ses fonds en France et il peut facilement payer parce qu'avant, il devait prendre 2 semaines pour ça. Il devait payer les frais de 6% du montant de la scolarité qu'il payait. Donc, il avait des frais bancaires plus importants et chez nous, il a des frais bancaires moins importants. Le deuxième point qui est très important, qui est notre activité historique, qui reste notre activité phare, c'est ce fameux sésame qui est l'attestation de virement irrévocable, qui est exigé par l'ensemble des consulats. Pour le faire, il l'ouvre en compte directement dans notre système auprès de nos partenaires bancaires, le Crédit Mutuel Arkéa en l'occurrence. Il dépose les fonds soit en local, donc dans son pays, nous on a la possibilité de le prendre, on l'aide à le transférer vers son compte au Crédit Mutuel Arkéa, ou bien lui-même il approvisionne directement au Crédit Mutuel Arkéa. Et fort de cela, nous on lui délivre une attestation qui lui donne droit à des bénéfices essentiels. Premièrement, on se porte garant pour son logement gratuitement. C'est un acte de cautionnement gratuit que Studeli délivre pour lui. Le deuxième point, c'est que toute la procédure se fait, même en 10 minutes, il peut la faire. Et tout est en digital. Il n'a pas besoin de passer dans nos bureaux. Et troisièmement, bien évidemment, les frais sont très, très moins cher, voire 2 fois moins cher que toute la concurrence ou les banques. Et quatrièmement, bien évidemment, il bénéficie dès maintenant d'un compte bancaire, du moins un compte de paiement, gratuitement pendant 1 an en France. Mmh. Et ça, aucun service n'existe à l'équivalent par rapport à cela.
Si l'étudiant n'a pas son visa, ça arrive, hein, toute la procédure a été faite, il est accepté dans une école, dans une université, et il n'a pas son visa.
Bien, tout simplement, c'est qu'on lui rembourse l'ensemble de la caution qu'il a payée. Ça, c'est une exigence chez nous. Et bien évidemment, c'est son argent. Et la deuxième chose, bien évidemment, les frais de service de Studeli restent...
Mais le visa, il était encaissé par les autorités françaises, qui, elles, ne remboursent pas le frais de visa.
Bien, il faudra poser la question.
Donc vous ne vous remboursez pas ce que les autorités françaises ne remboursent pas, j'imagine.
Les autorités françaises ne remboursent pas les frais.
Quand il y a un refus de visa,
ils ne remboursent pas.
Il n'est pas motivé et il n'est pas remboursé.
Il n'est pas remboursé. Les frais de demande, effectivement, ne sont pas remboursés, mais je pense que c'est le consulat qui a plus de réponses à cette question.
Bon, c'est pas la somme la plus importante investie par l'étudiant africain, on est bien d'accord. Comment vous faites pour que les frais soient moins élevés que par une banque ? De votre côté, vous n'êtes pas un établissement bancaire. En quoi vous êtes innovant ? Comment vous faites ?
Tout simplement, nous, le processus, nous, on l'a simplifié dans le sens où on fait les transferts des fonds directement en une fois, pendant que les banques font 12 mois, donc plusieurs fois. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous, on a associé plusieurs types de partenaires et avec les solutions digitales, donc on a une forme d'accessibilité au service qui est moins chère que la concurrence. C'est-à-dire, l'étudiant n'a plus besoin d'aller dans une agence bancaire, il peut le faire directement aussi. Et aussi, je peux le dire ici, c'était une volonté de nous, les fondateurs, de se dire, tout étudiant doit avoir chez nous le service de meilleure qualité au prix moins cher. Avec le volume que nous avons, j'ai le plaisir de vous l'annoncer qu'on a fait plus de 10 000 étudiants, on arrive à atteindre justement
forcément
nos
objectifs. Baisser les prix, parce qu'il y a quand même des frais de service hein, pour l'étudiant qui passe, qui recourt à vos services.
Bien évidemment, il y a des frais de service. Autour pour l'attestation de virement irrévocable de 470 euros lorsqu'il paye en France. Et pour notre compte de paiement, les frais de service sont de 60 euros annuels, donc 5 euros par mois. Et s'il il est encore dans son pays, il paye 84 euros l'annuel.
Si vous faites faillite, est-ce que les étudiants perdent leur argent qui ont été épargnés chez vous?
Très, très bonne question. Non, pour deux raisons. La première, c'est que les fonds sont bien évidemment cantonnés dans notre banque partenaire. La deuxième, c'est que nous, on a des assurances qui, justement, garantissent ces points. En gros, je pense que c'est aussi une même question qu'on peut poser à une banque. Toutes les banques ont un niveau de garantie par rapport au dépôt, bien évidemment, pas toutes les sommes. Mais on est aussi assujetti à cela à travers la réglementation.
Vous avez commencé avec les étudiants africains qui veulent venir étudier en France. Aujourd'hui, vous élargissez?
Oui, on élargit depuis à peu près 2 ans, 2020. On est avec le digital, le Covid oblige, on est passé totalement en ligne et on a commencé à servir 10% de notre clientèle vient de la Chine et l'Inde. Donc c'est une très très bonne nouvelle pour nous. Et on a élargi non seulement les pays d'origine des étudiants, avec la France comme pays d'accueil, et surtout, et ça c'est la bonne nouvelle aussi, c'est que Studelist désormais c'est aussi l'Allemagne. Donc on permet aux étudiants qui vont en Allemagne de pouvoir obtenir nos services parce que c'est les mêmes éléments, notamment, ils appellent cela le bloc account. Donc, ils ont besoin de ça, qui est l'attestation de virement irrévocable.
Merci beaucoup, Duplex Camgang, d'être passé chez 7 milliards de voisins. Pour plus d'informations, rendez-vous sur votre site.
Oui, studelist.com.
Voilà. Et puis là, tous les étudiants sont guidés pas à pas. Merci à vous.
C'est moi qui vous remercie.
Dans quelques instants, ça va être bientôt la fin de l'émission. Hein. On va se quitter avec Another One, Naya Ali. Et je vous donne rendez-vous demain pour 7 milliards de voisins. Je vous donne le programme. Ça sera un peu comme un avant-goût de l'été avec des voyages et des rencontres charnelles et culturelles. Sac à dos et libido, les pays racontés par leur sexualité. Antonio Fischetti sera notre invité avec notre correspondant, nos correspondants dans le monde. Alors si vous n'êtes pas disponible pour écouter nos émissions en direct à 10h10 temps universel, c'est très simple, vous pensez au podcast bien tranquille avec votre smartphone et vos écouteurs. Dans quelques instants, ce sera le journal, juste après Another One, Naya Ali. De voisins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe, Delphine de Dianous, Juliette Brault, Romain Dubrac, Raphaël Lazizi. Dans quelques instants, dans un tout petit peu plus d'une minute maintenant, le journal en direct sur RFI.